C'est l'heure de l'instant M avec Sonia.
Avec Sonia et Pierre Bénichou qui a commencé à engueuler tout le monde dans le studio depuis qu'il est arrivé.
C'est pas vrai, non.
Enfin, si, c'est vrai.
Mais non, les gens qui sont là, il y a Philippe Vandel et il y a notre charmante hôtesse, ne savaient pas que c'était du rap.
C'est un scandale. Pierre, moi je suis de votre côté. Je ne peux plus me les voir. Alors je vous dis à lundi et bon week-end.
Salut.
Qu'est-ce qu'on fait lundi? Ah non, c'est pas moi.
Bah, lundi, on revient, on fait des émissions. Bon, salut Augustin, bon week-end.
Amis téléspectateurs,
il est 9h41, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Aurait-il laissé à d'autres le soin d'enterrer ses amis ? Aurait-il, sachant une personnalité à l'approche de la mort, rédigé d'avance son article ? Aurait-il adjoint à sa notice nécrologique une série de dates supposées réancrer la légende dans un vécu chronologique ? Non. 30 ans de Nouvelle Obs, Pierre Bénichou réunit dans un livre quelques nécros publiés d'antan, Ferré, Duras, Marais, Coluche, Ventura, Dassault, Cocteau, et vous savez quoi ? Ces textes sont ardents et ils sont féroces. Libres au regard des canons d'un genre journalistique très codifié, libres au regard des morts, mais surtout des vivants qui n'oseront pas aller cracher sur leur tombe. Bonjour Pierre Bénichou.
Bonjour.
Les absents, levez le doigt, sort chez Grasset, on croque la Madeleine du vendredi et on écoute Philippe Vandel. Salut Philippe.
Salut Sonia.
Demandez le programme.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors, le vendredi, Pierre Bénichou, on joue avec ses souvenirs sur France Inter. Ah ouais. Je vous dis ça parce que vous fréquentez plutôt RTL d'habitude. C'est notre Madeleine. Celle-ci a été spécialement concoctée pour vous, Pierre Bénichou.
On va manger des Madeleines.
Non, on va manger des Madeleines sonores. Voilà, qui vont nous rappeler des souvenirs.
Ah oui.
Alors,
comme dans le livre d'André Gide.
Ou de Proust, enfin comme vous voulez. Bref.
Ah, vous faites aussi les homosexuels.
Je fais les homosexuels qui savaient écrire comme vous, mon cher. On va en reparler. Celle-ci donc a été spécialement concoctée pour vous. Vous allez entendre Charles Trenet que vous aimiez tant.
Ouais.
Enregistrer le générique de Rien à cirer, l'émission de Laurent Ruquier.
Ouais.
À l'époque, Laurent Ruquier était sur France Inter. Maintenant, vous êtes à ses côtés dans les grosses têtes d'RTL. Voilà, alors quelques secondes de délices et pendant ce temps-là, vous réfléchissez à cette question. Nous étions en 1991, début de Rien à cirer, 1991. D'où vient le titre Rien à cirer ? Qu'est-ce qui a donné l'idée à Ruquier ?
C'est parti ! Rien à cirer, tout est nickel, tout resplendit chez moi. Et des yeux bleus, couleur du ciel, sont des soleils de joie. Rien à cirer, j'ai l'âme ravie de partager enfin ma vie et de connaître en vérité le bonheur d'un monde enchanté. Rien à cirer, adieu tristesse, adieu les mauvais jours. Bonjour tant de la jeunesse et de l'amour. Je n'ai plus en tête rien de tragique quand je répète ces mots magiques, ce qui nous font tout espérer.
D'où vient le titre de l'émission Rien à cirer ? Pendant ce temps-là, Pierre Bénichou dit c'est un génie. Voilà, vous ruez sur votre mail, l'instantm@radiofrance.com, l'instantm tout attaché à radiofrance.com, et le premier arrivé gagne la réédition de Oh les beaux jours, Madeleine Renaud jouant Beckett, c'est magnifique. Bonne chance à vous tous.
Alors, qui...
Philippe Vandel. Ah bah, on donne la réponse tout à l'heure.
Fin.
D'abord, on écoute Vandel.
Qui a choisi ce nom-là ? Ça vient d'où ? Dis-moi la réponse.
On laisse les auditeurs.
Pierre, je peux pas
trouver.
Te répondre.
Et après, on vous dit. Mais je crois que Vandel a déjà trouvé. Alors, Philippe.
Moi, je vais revenir sur le premier tour de la présidentielle. C'est dimanche 23. Les chaînes d'info ont fait des soirées spéciales, évidemment. Mais aussi TF1, le service public, France 2, France 3, c'est en partie leur mission. Et puis, au bout d'un moment, j'ai saturé. Donc, je suis passé sur France 5, la chaîne de la connaissance. Et alors que les 11 candidats et leurs lieutenants se tiraient dans les pattes, France 5 a consacré sa soirée à un documentaire, La folie du couscous.
Bien.
Ça ne s'invente pas. Et du coup, je me suis intéressé au programme de la soirée du second tour, c'est-à-dire après-demain dimanche. TF1, France 2 aussi La 3 vont faire des émissions spéciales Élysée, mais les autres, eh bien c'est beaucoup moins spécieux qu'il n'y paraît, car dans le cas d'un événement très fort, comme par exemple un match de foot attendu, les chaînes pratiquent la contre-programmation.
Mm-hmm.
Ils étudient quelles sont les cibles qui ne s'intéressent pas au football, justement pour rassembler ceux que l'événement n'intéresse pas. Oui. C'est la raison pour laquelle on a vu autant de comédies romantiques, de films girly pendant la Coupe du Monde. Ça tient à la fois des a priori des programmateurs et des études marketing. Mais alors, quel rapport avec la politique ? J'y viens. Eh bien, lors de la plus grosse soirée électorale du quinquennat, ce dimanche, les chaînes qui ne diffusent pas de la politique ont bien réfléchi à la programmation. Elles ne vont pas griller des cartouches. Alors, il faut être clair, tout le monde ne va pas regarder. Hein. Le débat fait 16,5 millions de personnes, c'est-à-dire qu'il y a 50 millions de personnes qui ne l'ont pas regardé. Mais quand même, pendant que les deux candidats nous expliquaient pourquoi il fallait voter pour eux, pour que le monde soit meilleur, la France plus forte, les salaires plus élevés, les cotisations plus faibles, France 3 diffusait « Faut pas rêver ». Alors dimanche, on verra quoi. C'est là. Alors j'ai regardé les programmes. Je précise que quand les chaînes annoncent les programmes, c'était il y a plusieurs semaines.
Oui.
Donc elles connaissaient pas le résultat du premier tour. Mais quand même, on dirait qu'elles ont eu sacrément du flair. Dimanche soir donc, France 5 pense au PS et aux Républicains qui ont explosé en vol. Il y a un documentaire « Steak haché sur le grill ». On a l'impression que la 7 et la 8 sont coordonnées au cas où Marine Le Pen gagne. Arte diffuse le festin de Babette. Et C8, c'est pour Macron. Ciao Pantin. W9 diffuse En état de choc. C'est un magazine d'actualité. Une rediffusion argent et démesure. La vie sidérante des milliardaires aux Émirats. En gros, tout ce que reproche Marine Le Pen à Macron. C'est-à-dire les accointances avec les musulmans et les hyper riches. Mais plus sérieusement, parce que là je vais être sérieux pour Pierre Bénichoux, quand on regarde les études, qui sont les abstentionnistes ? Étude du CVPOF qui dépend de Sciences Po sur l'abstention. Plus on est âgé, plus on vote. Corollaire, plus on est jeune, plus on s'abstient. Donc moins on est intéressé par la politique. En toute logique, les chaînes devraient viser les jeunes. Eh bien, c'est le cas. M6 diffuse Pirates des Caraïbes, film d'action avec Johnny Depp et Penelope Cruz. TMC a choisi Le Monde de Narnia, film pour la famille, spécialement pour les enfants et des ados, donc des gens qui n'ont pas le droit de vote. Sur NT1, Scout toujours avec Junio, l'histoire d'un chef scout qui devient souffre-douleur d'une bande de louveteaux, donc des gens qui votent pas. Énergie 12 a anticipé la défaite du clan Le Pen. C'est encore une rediffusion. SOS, ma famille a besoin d'aide. Mais tu veux faire exprès, tu n'y arrives pas. Ensuite, il y a les chaînes de fond de grille. Il n'y a que des rediffs, quasiment que des rediffs. Mention spéciale à France 4, qui a choisi un film d'animation, mais lui aussi avec un message subliminal dans cette campagne de boules puantes. Ça s'appelle « Tempête de boulettes géantes ». Et je vous lis le synopsis. Des villageois se nourrissent exclusivement de sardines pour survivre à la crise. Ça change des costumes à 6 000 euros.
Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus mariole, en effet, que tempête de boulettes géantes comme contre-programmation. Merci, Philippe.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Pierre Bénichoux.
Yes.
Yes. Les absents, levez le doigt. Ça sort chez Grasset. Oh merde. Oh merde. Voilà ce qui accueille ce genre de nouvelles, écrivez-vous. Il y a une seconde de silence, ce petit entracte intime à quoi l'on reconnaît à la longue les pianos du cœur et les violons de l'âme. On écoute Aragon.
Ce chemin de toute ma vie, et en voici le bout sans que jamais j'ai su ce qui me l'avait fait choisir. Le temps m'est venu de laisser place à ceux qui chantent mes vers. Ou l'hélice en silence. Aussi bien aujourd'hui, est-ce pour la dernière fois que j'ai accepté de venir sur cet écran, conscient de mon âge, de mon apparence, soucieux d'y laisser place à autrui.
Pierre Bénichoux, une nécrologie n'est pas un portrait. C'est ce qu'était une personnalité, mais c'est surtout ce qu'elle était pour nous tous. Ouais. C'est un portrait vu depuis la disparition, vu depuis le manque et vu depuis l'absence. Quand vous écrivez à la mort d'Aragon en 1982, on s'attendait à un papier qui commence par « il », la troisième personne du singulier, et en fait, il commence par « je ».
Oui, parce que j'ai, avec Aragon, que j'ai très peu connu, j'ai croisé, et que je ne suis pas allé voir, bien que, comme vous le savez, la qualité de journaliste fait qu'on peut raconter n'importe qui. Moi, c'est comme ça que ça m'a incroyablement étonné quand j'étais jeune, très jeune journaliste, j'ai commencé à 18 ans, et qu'on disait « Allô, monsieur Pompidou, oui, bah, je voudrais bien vous voir ». Et qui disent, oui, c'est pour ça que quand on dit un carnet d'adresses, c'est pas besoin, il y a que l'annuaire. Les gens répondent tout le temps. Et quand on leur dit journaliste, ils s'en foutent de joie. C'est comme si une pute, on disait milliardaire. Oui, oui, monsieur, tout de suite. Non, mais c'est incroyable. Et donc, Aragon, que j'ai très peu connu, j'ai une admiration sans borne pour lui, parce que j'étais élevé en Algérie, où on avait, comme chacun sait, un amour de la France absolument incroyable. C'est jamais... Peut-être en Alsace, il y a eu des patriotes comme ça, et peut-être qu'on se doutait de ce qui allait arriver. Mais on avait... Et moi, j'avais un oncle, des oncles et un père qui étaient très poésie. Alors, il y en avait un qui était rentré de France avec, en nous ramenant, je crois, les Yeux d'Elsa et le Crève-Cœur, qui étaient deux petites choses que les résistances passaient, comme ça.
Oui, votre nécro, elle commence par « J'avais 10 ans ».
Voilà. Alors, quand j'ai eu 10 ans, c'est-à-dire en 1947, 48, on est venu en France. Et moi, la France, c'était ce qu'on disait Aragon, quoi. Et j'avais une phrase, alors j'ai dit la première chose qui me soit, première mot qui me soit venu sur mes lèvres, c'est « Je te salue, ma France, aux yeux de Tourterelle ». Et je croyais que ça passerait, cet aragonisme. Ça n'a fait que se augmenter tout le temps.
Se renforcer.
Et parce que c'était pour moi le Victor Hugo de notre époque.
Ces nécrologies que vous avez publiées dans l'Obs, Pierre Bénichoux, vous ne les avez pas retouchées, vous ne les avez pas modifiées. Elles disent toute votre émotion et toute la nôtre au moment où disparaissent toutes ces grandes figures qui ont été le siècle français. La mort, c'est ma distance. Écrivez-vous entre 3 et 5 feuillets. J'ai la mémoire longue, mais la plume courte. L'émotion tient en peu de mots. C'est donc de ces textes très très courts qui sortent totalement des codes journalistiques, de la nécrologie dont on va parler aujourd'hui, Nino Rota.
Arrivate-en, pardon.
Vous avez passé toute une journée à Rome avec Fellini, et Fellini vous dit « De toute façon, les bonnes interviews, c'est inventé, tu n'as qu'à inventer. Moi, j'ai tellement menti que je ne sais plus ce que je fais, ni ce que je suis, ni ce que j'aime. » Et sur Aragon, vous dites, Pierre Bénichoux, « Le vrai, le faux, nous nous en soucions comme d'une guigne. L'important, c'était la légende, qu'on appelle aujourd'hui par un curieux détournement de sens, le vécu. » C'est ça qu'il y a dans vos papiers ?
Je sais pas. C'est le papier que... La seule chose que je revendique, que je mettrai en gras, c'est que j'ai fait ces papiers presque le jour même de la mort de ces gens. Je voulais montrer j'espérais que peut-être on verrait autant un portrait du mort qu'un portrait de l'époque qu'on vit. Parce que là, c'est vrai que quand on a... Il y a eu un truc formidable qui s'est passé au moment des législatives ou de je ne sais quelles élections, et Jean Ferrat est mort 3 jours avant. Il y a eu une sorte de folie, Jean Ferrat. On n'entendait que ça, tout le monde disait du bien de lui. C'était un très bon chanteur, il a mis Aragon en musique aussi. Mais c'était pas un personnage non plus, c'était pas Mozart, ni Victor Hugo. Et ça a été fou. Les élections arrivent, la gauche, contre toute attente, fait un tabac extraordinaire. Et moi, je voulais qu'on tire l'Observateur, la France a voté Ferrat. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une telle reprise des vieux réflexes démocratiques, socialistes, communistes, anti-collabo. Enfin, vous voyez ce que je vote Le Pen, quoi. Et donc, que toute la France a fait comme si, attention, comptez-moi parmi ceux qui aiment Ferrat. Voilà.
Comptez-moi parmi ceux qui aiment Ferrat. Je cite la chute de votre papier sur Aragon. Mon roi Louis, ma vieille canaille, ils vont gifler un mort. Et après, même ça, c'est toi qui leur as appris. Il y a quelque chose de totalement féroce dans vos papiers, non, Pierre Bénichoux.
Gifler un mort, il faudrait que vous me demandiez ce que c'est.
Mais je vais vous demander ce que c'est que de gifler un mort, parce que vous ne cessez de gifler les morts que vous enterrez, non, avec une liberté de plume comme on ne les voit jamais dans ces papiers nécrologiques. De Ferré, vous dites Ferré l'antipathique, le grimaçant, l'anarcho-médiatique, le révolté opportuniste, le millionnaire qui n'en finissait pas de ressasser ses 5 ans de vache enragée, le faux humaniste jamais débarrassé de son mauvais goût, Côte d'Azur. Qui oserait écrire ça dans une nécro ? Qui ? Personne ?
Ah bon ?
Non.
Putain, non, heureusement qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont acheter ce livre, parce que
oui.
Si je suis le seul... Non, mais non, c'est un peu... C'est une vieille tradition des journaux de gauche. Savoir qu'on peut dire les choses sur les gens, parce qu'en plus, c'est quand même très habile, ce genre de truc. C'est pour que les gens qui n'aiment pas cette façon d'écrire, après, je rembine toujours, oui, mais quel génie, oui, mais quel
truc. Absolument.
Sans ça, j'aurais pas fait de papier.
Non, sans ça, vous n'aurez pas fait de papier. Mais quand même, il s'en dégage quelque chose, Pierre Bénichoux, de très, très émouvant. Vous citez le journal de Cocteau. 40 ans de chasse à l'homme, 40 ans que je les emmerde. Et vous, vous ajoutez, pourquoi j'aime Cocteau ? Parce que j'ai appris dans ses poèmes à lire, à aimer, à haïr et à ne respecter que les hommes perdus. Et c'est l'angle de presque tous vos papiers. C'était des hommes perdus et vous allez justement dans le sens de leur perte. Vous n'hésitez pas à y aller.
Il n'y a que des hommes perdus, moi je crois. Quelqu'un qui dirait j'ai réussi ma vie, non ? Personne, même De Gaulle, lui doit dire comment je suis le père d'une petite fille qui parle pas, mais comment faire, c'est trop fort. Et il doit dire cet enculé de Churchill qui prend toute la vraie notoriété, le vrai truc, et moi ce que je suis quoi? Je suis un coureur régional, quoi. Tandis que Churchill, c'est le monde entier. Staline, c'est le monde entier. De Gaulle, c'est quoi? C'est un petit mec, mais qui a eu du courage. Hein.
Qui a eu du courage. Et vous vous reprenez à votre compte. Ah non, ne vous étouffez pas. Hein. Vous vous reprenez à vos comptes toutes les critiques endurées pendant une vie d'artiste libre. Et vous dites, Marguerite Duras, c'est le sous-titre de sa nécrologie, c'est « Une fois morte, son génie échappe enfin au ricaneur ». De Serge Gainsbourg, que vous adoriez, vous dites « C'est la mort qui s'est chargée de mettre fin à nos résistances de gamins ». Comme si la mort sifflait la fin de partie et installait le génie.
Peut-être, oui, c'est très bien dit. En tout cas, j'aurais aimé trouver cette formule. C'est vrai, c'est que la mort, c'est quand même la seule chose importante, quoi. C'est la seule structure, c'est le seul... Est-ce que je parle d'aphasie? Non.
Non,
la seule surprise, c'est quelqu'un qui parle. Oui, il est mort. Quoi? Oui, il est mort. Non, si, non. Non, si, c'est la surprise. Hein,
oui.
Non, si. Évidemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui était là, qui était encore tout chaud, qui était encore sur la couche, et c'est fini. C'est un morceau de buvard. On n'a jamais rien inventé de plus étonnant au monde. Non, mais c'est vrai.
Oui.
C'est mieux que les anges, c'est mieux que tout, c'est mieux que le Concorde, c'est mieux que tout. La mort. C'est quoi, alors? La mort. Non, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, peut-être la plus belle phrase que je connaisse, c'est Condorcet qui était l'avocat de Louis XVI. Et Louis XVI attendait, et lui revient de la salle, dans une salle de l'attente, il revient du prétoire, et Louis XVI l'interroge du regard, et il dit « Sire, ils ont voté la mort. » Pas plus beau.
Non,
pas plus beau. Ils ont voté la mort.
Alors justement, vous qui aimez tant les formules, ce petit livre, c'est aussi une leçon d'écriture. Vos titres de Françoise Dolto, vous dites la mère-veilleuse. Marcel Dassault, l'accroche, l'attaque, ce qu'on apprend dans toutes les écoles de journalisme. Je lis l'attaque de votre papier sur Marcel Dassault. Il ne lui restait qu'un seul ennemi, virgule, le froid. C'est génial. Et vos chutes. Vos chutes sont toutes extrêmement émouvantes. Celles que vous écrivez à la fin de la nécro de Charles Trenet. Que reste-t-il de nos amours? Relisez ce vers, relisez-le 2 fois, 20 fois. Et vous verrez Hamlet interrogeant le crâne, Proust devant les momies du temps retrouvé, Giacometti et son homme qui marche, Bacon défiguré, j'en rajoute, et après. Ce n'est pas tous les jours qu'on perd un siècle.
Ouais, c'est vrai que j'ai eu pour Trenet un amour fou. Bon, c'était pas le même que pour Aragon ou pour d'autres, mais je veux dire, il y avait chez moi un disque, évidemment, en 78 tours, et il y en avait qui était d'un côté, il y avait avoir un bon copain, c'est tout bon. On avait deux disques. Et puis, alors, de l'autre côté, il y avait autre chose, je me souviens plus que c'était pas ça. Et celui de traîner, il y avait d'un côté que reste-t-il de nos amours, et de l'autre côté, il y avait un troisième disque qui était, je suis batteur.
Vous voulez revenir lundi, Paul Bénichou?
Non, pas du tout.
Parce que c'est la fin de l'émission.
C'est la fin. Il y a le jeu, il y a tout.
Il y a c'était de Maurice Chevalier où il disait. Rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qui rencontre les histoires de vicomte.
La fin de l'émission. Lisez Les Absents, Levez le doigt. C'est publié chez Grasset et c'est magnifique. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'Instant M. La gagnante du jour s'appelle Françoise. Rien à cirer, c'était la phrase de...
Edith Cresson, Premier ministre, la bourge, j'en ai rien à cirer.
Rien à cirer, voilà, qui avait inspiré Laurent Ruquier. Bonne journée à vous tous sur France Inter.